Bonjour et bienvenue dans l'émission Un jour, un chiour. Vous êtes en compagnie de Philippe Elbès et nous parlerons de la dernière paracha du Sefer Bereshit, la paracha Vayechi, qui annonce à la fois la descente des Béné Israël en Égypte et en même temps la mort de Yaakov Avinu. Yaakov se trouve très embêté car il ne sait pas comment expliquer à ses enfants la nécessité de passer par la galoute égyptienne pour devenir le futur peuple d'Israël. Aussi, après les avoir bénis un à un, leur montrant qu'ils avaient chacun d'eux la force de rester en contact avec Dieu, et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en galoute, car Dieu nous en sortira. Yaakov bénit ses fils et leur donne un dernier conseil, l'Ishuatra en ton assistance, qui viti Adonai, j'espère au Seigneur. Eh bien, l'objet de notre étude sera de comprendre quel était le message de Yaakov en prononçant ce pasouk « L'Ishuatra kiviti Hashem » que « J'ai espoir en Dieu ». Toute la vie dépend de l'espérance, nous dit le Midrash, de l'espoir que l'on a sur le sens des épreuves, le mérite des pères, des sacrifices que l'on fait chaque jour, du Olam Haba, du pardon, de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. De même, la délivrance dépend de notre espoir en Dieu. C'est le principal message que le patriarche Yaakov veut donner à ses enfants avant de les quitter pour le long exil qui les attend en Égypte. Si vous gardez en vous l'espoir de vivre la Géoula, que Dieu ne vous abandonnera jamais, alors vous vivrez la délivrance finale. Le Maguid de Kotznitz fait remarquer que de la paracha Miketz jusqu'à ce pasouk, les Shuatra Kiviti Hashem, le nom d'Hashem, qui exprime habituellement la miséricorde, n'est pas mentionné. Parce qu'à partir de ces parachiotes commence la descente en galoute du peuple juif. C'est pourquoi Yaakov voulait leur dévoiler le Ketz, la fin des temps, afin qu'ils supportent les douleurs de l'exil. Car en effet, si je connais la fin de l'histoire, des épreuves du peuple juif, peut-être que je pourrais les supporter en attendant que le mal se passe. Mais la Shekhina s'est retirée de lui, le privant de l'inspiration prophétique nécessaire à une telle révélation, afin de ne pas enlever à Israël le mérite de l'attente de la Géoula. Yaakov pensait qu'en leur dévoilant la fin des temps messianiques, il aurait pu convaincre les Bnei Israël d'accepter, de supporter toutes les souffrances que tous les peuples de la terre nous feront subir au cours de tous ces siècles. Mais la Providence n'en fut pas d'accord. Dieu retira à Yaakov ce niveau prophétique, lui interdisant de dévoiler à ses enfants ce qui se passera à la fin des temps, obligeant les Bnei Israël à continuer à croire en Dieu dans les conditions les plus difficiles de l'existence. Alors comment faire pour aider les Bnei Israël à supporter cette mauvaise nouvelle? C'est pourquoi Yaakov leur propose une autre voie pour atteindre la délivrance finale, et même pour la précipiter. Tout se joue dans la confiance que nous mettons en Dieu, comme nous le disons tous les jours dans la Amida, « Ki l'Ishuatra, car en ton salut, qui vit nous, j'ai espoir, vetzipinu kol hayom, et je l'attends chaque jour. » La Gemara Shabbat 31 nous dit que lorsque l'homme se présentera devant son Créateur pour être jugé après sa mort, il devra répondre à plusieurs questions. « Amarava, Rava enseigne, Bécha, au moment chez Machnissim Adam Ladin, où l'homme entre pour y être jugé, Omrimlo, on lui dira, Niset venatat bemuna, est-ce que tu as œuvré pour développer ta emuna en Dieu? Kved etim la Torah, as-tu fixé des temps pour la Torah? Tzipita li Yeshua, as-tu attendu l'arrivée de la délivrance? Palpelet bechorma, as-tu étudié la Torah? Avanta davar mitor davar, as-tu, à partir des enseignements de la Torah, déduit une chose à partir d'une autre? Cette Gemara est bizarre, parce qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Alors quel est l'intérêt de ces questions? Pour bien comprendre cette maxime de Rava, il faut faire attention à chaque verbe utilisé pour introduire la notion. Par exemple, Niset venatat. Est-ce que tu t'es occupé de ta emuna comme tu te serais occupé de tes affaires commerciales? Cela signifie que de même que tu cherches à prospérer dans tes affaires commerciales, de même qu'il faudrait amplifier et agrandir toutes les occasions qui testent ta confiance en Dieu, confiance qui devrait être identique à celle du bébé qui a confiance à sa mère. Car même s'il ne la voit pas, il sait qu'elle veille sur lui, elle est toute proche et prête à intervenir à tout instant. Eh bien, il faudrait avoir ce type de sentiment envers Dieu. Il faudrait pouvoir répondre à Dieu, « Oui, j'ai toujours senti que tu t'occupais de moi, que tu veillais à mes intérêts, sur ma santé, sur mes enfants, etc. etc. » Il ne s'agit pas d'avoir la foi en Dieu, mais il faut sentir qu'elle existe réellement dans ma vie de tous les jours. Car chaque fois que j'ai eu des difficultés, Dieu est intervenu en secret et m'a sauvé. On est loin de la foi aveugle et idiote. La Emouna, chez le peuple juif, est une véritable avoda, à savoir relever tous les détails de ma vie qui prouvent que Dieu a toujours été présent pour moi, un peu comme pour Yosef pendant ses épreuves. C'est affirmer sa profonde proximité avec Dieu. C'est un sentiment qu'il faut révéler en nous. Il est là, mais il faut pouvoir le détecter. De la même manière que le sentiment d'amour est un sentiment que l'on peut ressentir très fortement, eh bien le sentiment d'Emouna devrait être également un sentiment que l'on ressentirait très fortement, à savoir que Dieu nous entoure, nous enveloppe en permanence pour nous protéger des forces extérieures, comme c'est l'enjeu de la fête de Soukhot, où dans la Soukha, nous sommes protégés par la présence divine des vents extérieurs, des forces agressives du monde matériel. Et ce n'est pas par hasard si le sentiment de Emouna est particulièrement développé à l'occasion de la fête de Soukhot. Le Rav Gronstein avait expliqué que pour qu'une soukha soit cachère, il faut qu'elle ait deux murs entiers et un début de troisième mur, et il disait que cela ressemblait à un bras qui enlaçait son enfant. D'ailleurs, dans les halachot du Chinour, il nous expliquait qu'un enfant est chayav de soukha à partir de 3 ans, et disait le Rav, parce qu'à partir de 3 ans, un enfant a confiance à sa maman et il n'a plus besoin de la voir pour savoir qu'elle est là. Ce qui signifie que la fête de Soukhot est la fête de la Emouna. Mais contrairement aux nations où la foi est très souvent aveugle, dans la Torah, la Emouna est une véritable avoda et on devrait apprendre à identifier et à relire toutes les expériences de notre vie où Dieu est intervenu pour nous sauver d'un mauvais pas. Voilà pourquoi la première question qu'on posera à l'homme lorsqu'il sera là-haut, c'est: est-ce que tu as relevé toutes les fois où Dieu est intervenu dans ta vie pour te sauver? Et si c'est la première question qu'on lui posera, c'est parce que c'est la plus fondamentale des questions. Elle témoigne de mes efforts pour me rapprocher de Dieu. Dans le même registre vient la question: si pita les joies, est-ce que tu as attendu le salut? C'est-à-dire, non seulement je crois que Dieu est créateur du monde, mais en plus, il a un projet et il me tarde de le voir se réaliser. Qu'est-ce que c'est la mitzvah d'attendre le salut, Tziputa le Yushua? C'est lutter activement contre le sentiment de Yihush, c'est-à-dire d'abandonner tout espoir de Geoula. C'est avoir la certitude que Dieu n'a jamais et n'abandonnera jamais le peuple juif. Tout celui qui aspire à retrouver Dieu dans l'obscurité de la galoute se rapproche davantage de la Géoula finale. Le Yalkut Shimoni affirme que s'il n'y avait plus dans le peuple juif que cette mitzvah d'espérer en la Géoula, Tzipita le Yehoshua, cela aurait été largement suffisant pour déclencher la délivrance. Cela signifie que la mitzvah d'attendre la délivrance est à elle-même suffisante pour déclencher la Géoula. Le Smak se demande D'où sait-on que l'action de scruter l'arrivée de la Géoula est une mitzvah assez de la Torah? Elle découle, nous dit-il, du premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Car, de la même manière que tu crois en la création de la vie par Dieu, que tu crois que je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, alors tu as également l'obligation de croire que je te ferai sortir de la galoute et te fera atteindre la Géoula. Dieu a un projet, il se réalisera. C'est ça la mitzvah, d'attendre la Géoula. Israël n'a pas le droit de se laisser vivre. Il ne doit pas accepter cet état de léthargie dans lequel il est plongé. Mais il doit être prêt à vivre à tout instant l'arrivée du Mashiach. Comme il est dit dans Habakkuk, qui od chazon la moed, car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, veya feya la kesse veloy kazev. Elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas si elle diffère. Attends-la avec confiance, car elle se réalisera sans tarder. Imit mamea hakelo kiboyavo loyaher. Cet enseignement de Habakkuk se retrouve dans la chanson de Anima Amin, Beimuna Shelema, dans laquelle nous disons que Afralpi Sheit Mamea Mikolze Achakelo. Bien que la venue du Mashiach tarde à venir, j'ai toujours espoir en sa venue et je ne désespère jamais. Le Smak se demande pourquoi la mitzvah d'attendre la venue du Mashiach est liée à la sortie d'Égypte. Parce que tant que le peuple d'Israël vit en galoute, c'est un vrai Chilul Hashem pour Dieu, du fait que les nations se moquent de nous en disant « C'est ça le peuple que Dieu a choisi ?»« Lama yomu agoyim » Pourquoi les peuples diraient « Ayena Elohim » Où donc est leur Dieu ? Entre parenthèses, il faut noter que le Sefer Achinour ne relève pas la mitzvah de Tzipita Yeshua comme une des 613 mitzvot de la Torah, parce qu'il considère que ça fait partie des fondements mêmes de la foi en Dieu. Un peu comme le Rambam qui ne relève pas la mitzvah d'habiter en Israël comme étant une des 613 mitzvot de la Torah, parce que c'est une évidence et donc ça ne peut pas être une mitzvah. D'ailleurs, le Rambam statue à ce sujet que tout celui qui n'attend pas la venue du Mashiach est considéré comme un renégat de la Torah. Et le Brisker Rov explique qu'il faut l'attendre chaque jour. C'est un fondement de notre foi. On devrait se sentir contrarié et frustré chaque jour qu'il n'est pas venu. Le Hafetz Chaim, par exemple, s'obligeait à étudier les Gemorot liées au Kohanim et au sacrifice du Beth Amidash, car, disait-il, il fallait être prêt à tout instant à refaire fonctionner le Beth Amidash si le Mashiach venait. De la même manière, le Rav Moshe Feinstein avait refusé de se faire opérer un jour, pensant que cela lui créerait un défaut, un moum, qu'il aurait invalidé pour faire partie du grand Sanhédrin. Car, disait-il, il fallait être prêt et raouille à être un membre du Sanhédrin au cas où le Mashiach viendrait à se dévoiler. Et tous ces exemples nous montrent combien nos maîtres se préparaient activement à recevoir la Géoula chaque jour de leur vie. Et si tu crois au Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, alors tu dois croire avec la même force et la même détermination que Dieu nous sortira de la galoute d'Édom. Yaakov ne savait pas comment annoncer à ses enfants l'obligation de descendre en Égypte pour y fonder le futur peuple juif. Il voulut leur dévoiler la fin des temps, pensant que cela les aiderait à supporter les souffrances des différents exils. Mais Dieu ne le permit pas, car cela aurait enlevé tout le mérite d'avoir persisté à suivre les voies de la Torah dans l'adversité de la galoute. Pour ne pas qu'ils désespèrent de l'interminable galoute d'Édom, Yaakov leur enseigna un deuxième chemin. Il ne faut pas vivre sa Torah comme si on n'avait rien à attendre de l'histoire. Bien au contraire, il faudrait organiser notre vie comme si l'arrivée du Mashiach était imminente. Il faudrait se projeter dans un futur proche où la Géoula serait bientôt annoncée par Eliyahu Hanavi. En attendant, voici le message que Yaakov veut transmettre aux générations futures. Kave el Hashem, espère en l'Éternel, chazak et courage. Veyames libecha, que ton cœur soit ferme. Veyakave el Hashem, oui, espère en l'Éternel. La Geoula dépend de l'espoir quotidien, Kave el Hashem, que tu mets en elle. Et plus tu sens la présence divine se rapprocher de toi et t'envelopper, et plus tu dévoileras les mécanismes qui conduiront à l'arrivée du Mashiach. Alors pour terminer notre étude, je vais citer un Beit Yaakov de la paracha Vayechi qui aurait pu être l'explication que Yaakov aurait donnée à ses enfants afin qu'ils acceptent et comprennent mieux la nécessité de passer par l'Égypte. En effet, nous savons que la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte, a eu lieu en plein milieu de la nuit du 15 Nissan. Comme il est dit, Vayi bachatsi alayla, vahashem ika kol becho beretz Mitzrayim. Le Beit Yaakov se demande pourquoi fallait-il que la Géoula ait lieu précisément à minuit, au milieu de la nuit. Il explique au nom du Zohar que minuit correspond au moment de l'obscurité la plus importante et c'est le moment où l'action de l'homme est au plus bas. C'est-à-dire qu'à minuit, toutes les actions de l'homme sont totalement décomposées pour revenir à sa source. Un peu comme la graine qui va se décomposer dans la terre avant de devenir racine pour pouvoir germer et faire ressusciter la tige qui donnera naissance à sa résurrection. C'est-à-dire que pendant la nuit, jusqu'à minuit, il y a un travail de décomposition de tout ce qui est superficiel dans nos actions qui fait qu'on a pris des plis ou des engagements qui étaient totalement superficiels mais qui, par le travail de la nuit, sont progressivement éliminés jusqu'à ce qu'on revienne à la source. Exactement comme le cas de la graine qui va commencer à se décomposer en retirant d'elle toute l'épaisseur extérieure de son écorce jusqu'à que ne reste dans la terre que le principe actif, le principe vivant qui redonne l'impulsion à la vie. Eh bien, ce processus, c'est exactement ce que les Bnei Israël vont vivre en descendant en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Eretz Kenaan, ils étaient composés de 70 personnes, toutes tzadikim, avec un niveau de lucidité et de conscience jamais égalé. Il est clair que ce chiffre de 70 fait référence également aux 70 nations. Et il y aurait donc 70 personnes issues de Yaakov, Keneged, qui ferait face aux 70 nations que porte la terre. Alors, pour faire naître ce peuple juif, il faut que ces 70 personnes descendent en Égypte, que leur lucidité, leur conscience dégénèrent et se dénaturent, jusqu'à ce qu'ils aient retiré tous les habillages et les revêtements qui ont fait leur personnalité. Et une fois que toute cette conscience a totalement disparu de la surface, alors à ce moment-là, il ne restera que le principe actif, le principe vivant du Klal Israël, qui est cette fameuse volonté de Alou Bemachashava, que Dieu a pensé à Israël avant la création du monde. C'est également ce principe de l'os qu'on appelle le Louz, à partir duquel aura lieu Triat Amitim, la résurrection des corps, ce qui signifie qu'au moment où l'homme se sera totalement déshabillé de sa personnalité, qu'il aura mis de côté son Yesh, tout ce qui lui fait croire qu'il existe, alors seulement, à ce moment-là, apparaîtra la Neshama, issue de Dieu, qui lui a donné la vie, et à partir de laquelle peut avoir lieu la résurrection. Et c'est donc à minuit précisément, au moment où l'homme s'est débarrassé de tout son habillage, qu'il ne restera en lui plus que sa Neshama, alors à ce moment-là, il y aura Geoula. Et ce n'est qu'à minuit que la notion d'Israël est libérée des entrailles de l'Égypte. Ce schéma est fondamental et il restera une référence ultime dans tous les épisodes de l'histoire du peuple juif. Et notamment à l'issue de la Shoah où les nazis ont totalement dépouillé les Bnei Israël de ce qui faisait leur existence. Ils ont forcé les Bnei Israël à se débarrasser de leurs écorces, de leurs habillages et de leur volonté de ressembler aux nations. Et paradoxalement, où la nuit était la plus sombre de l'histoire du peuple juif, renaîtra cette idée d'un État d'Israël qui avait été mise aux oubliettes depuis 2000 ans. Voilà pourquoi ce sont les rescapés de l'épreuve de la Shoah qui vont construire l'État d'Israël. C'est parce qu'ils ont tiré la force de leur renaissance de la décomposition du peuple juif dans les camps d'extermination. Et si ce beau schéma du Beit Yaakov est facile à comprendre et peut même être une explication du prix à payer pour atteindre la Géoula, cela reste un problème pour Yaakov de le dévoiler à ses enfants, car pour ceux qui vont devoir le vivre, cela restera un traumatisme. Mais de la même manière que tu as cru au Dieu qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, tu dois croire qu'Hachem continue à s'occuper de son projet et qu'il ne sortira du joug des nations lorsqu'il aura décidé d'envoyer le Mashiach pour mettre un terme à l'histoire de l'humanité. Nous avons l'espoir d'appartenir à la génération qui verra le Beit HaMikdash se reconstruire, car nous avons déjà eu le mérite de voir le peuple juif revenir sur sa terre. En attendant et malgré toutes ses souffrances, le peuple juif doit continuer à servir Hachem dans les souffrances de la galoute, sachant que le temps des nations est compté. Je voudrais dédier ce Dvar Torah à la mémoire de mon père bien-aimé, Rabbi Shlomo ben Misraud Elbez, qu'il repose en paix auprès de son Créateur, et je vous souhaite un Shabbat Shalom.